toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité. Il est 8h01 sur les ondes de Galère et on est ravis de vous accueillir, et ce jusqu'à 10h. Anthony au micro, accompagné de Christian, mais également de Guillaume. Rappelez-vous Guillaume qui nous avait rejoint, ça fait déjà un an et demi. Voilà, et là il vient de manière ponctuelle pour tout simplement intervenir pour balayer l'actualité et également interviewer nos invités. Bon retour à toi Guillaume et bienvenue évidemment à toi qui connais désormais très bien cette radio.
Merci beaucoup, salut tout le monde, c'est un plaisir.
C'est un plaisir partagé. Bonjour Christian.
Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour à l'équipe, bonjour à Guillaume, parce que Guillaume, il a fait un passage chez nous, mais il fait maintenant de brillantes études dans le nord de la France, je crois.
Exactement, chez les amis de Dunkerquois.
Grâce à Radio Galère, d'ailleurs.
C'est ça.
Je ne sais pas si c'est grâce à Radio Galère, mais en tout cas, c'est surtout grâce à lui.
Grâce à lui, parce qu'il est, il est brillant.
Exactement. Et puis, il est le bienvenu, on verra évidemment les mesures qui vont être annoncées. Vous le savez, on attend patiemment l'allocution du président de la République ce soir. On aura l'occasion d'y revenir. Juste pour vous donner un petit peu le sommaire, auditeurs, auditrices. Pendant une dizaine de minutes, revue de presse, Christian, Guillaume et moi-même, on va balayer l'actualité rapidement. À partir de 8h15, dossier extrêmement important, dans le plaisir de recevoir ce matin Thierry, responsable du collectif Palestine Marching, qui sera accompagné de Suzanne Le Manceau, qui est membre fondateur du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, dossier extrêmement sensible. Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné depuis 36 ans, ce communiste, on aura l'occasion de décrire, notamment d'expliquer le récit de son histoire, et puis notamment un film qui va retracer sa vie, le film évidemment, prochainement, qu'on aura l'occasion d'aller voir. Et surtout, on va vous éclairer sur...
Si c'est possible, Anthony, parce que...
Si c'est possible, voilà. Et si le contexte le permet, évidemment.
Exactement.
Christian, tu fais bien d'appuyer. Oui. Tout à fait. Et 8h45, 9h25, dossier avec les économistes, Dany Bruet, Fabrice Aubert, d'économistes et pas des économistes, en tout cas.
Ils sont aussi économistes.
Ils sont aussi économistes,
pas,
en effet, marxistes.
Des très bons économistes.
Exactement. Et ils nous parleront de l'économie, voilà, de manière un peu plus globale. C'est assez un langage plutôt universitaire, mais vous verrez, de bonne grande gueule, avec des vrais discours et une vraie maîtrise, en tout cas, de ces dossiers-là.
En tout cas, c'est en pleine actualité, parce que l'économie, elle en prend un coup avec
COVID, la COVID-19.
Et donc,
évidemment,
on est vraiment dans une crise économique aussi.
Tout
pas
à
que
fait.
Sanitaire, Anthony.
Donc ça, c'est le dossier 8h45, 9h25. Et puis on conclura 9h30, 10h avec un dossier politique. Deux représentants de la France insoumise, Katia Yacoubi, conseillère en économie sociale, accompagnée d'Axel Bruno, qui est professeur. Ils nous parleront des dossiers brûlants associés à la France insoumise. On verra comment se porte le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais également les thématiques que développent et que combattent Katia Yacoubi et Axel Bruno sur le plan local, avec notamment l'abstention. Mais tout de suite, actualité nationale, un petit tour d'horizon, messieurs, tour de vis, reconfinement, coronavirus. La France étudie plusieurs scénarios face à l'accélération de l'épidémie. Alors, ne tombons pas sous la psychose, je le répétais de manière assez insistante sur les ondes du 88.4. Il n'en demeure pas moins qu'on va certainement, la France va devoir s'imposer un nouveau confinement, moins radical que celui de mars, hein, parce qu'on aura certainement la latitude de pouvoir...
On n'aura pas le choix, voilà, on ne peut pas faire pareil, c'est ça.
Exactement,
la question.
Les écoles vont rester ouvertes, les parents vont pouvoir aller travailler, mais on n'a pas encore toutes les grandes lignes précises des mesures qui vont être prises ce soir, mais dans tous les cas, l'exécutif va durcir sa stratégie. On va donner quelques éléments, Guillaume et Christian, mais juste avant ça, je vous rappelle, vous pouvez réagir 04 91 08 28 10 www.radiogalère.com .org pour le site, et puis pour ceux qui possèdent la RNT, le canal 8C. Christian, on démarre peut-être. Emmanuel Macron donc, a réuni hier notamment deux conseils de défense qui sont consacrés à l'épidémie. Aujourd'hui, réunion des ministres, vous êtes habitués, tous les mercredis. Jean Castex, Premier ministre, a rappelé hier, il a reçu les responsables politiques puis les partenaires sociaux à Matignon. Ils vont donc envisager de durcir, en tout cas, la gestion de la crise sanitaire, Christian. Puis Guillaume derrière.
Oui, ces consultations, à mon avis, sont pour but de durcir la situation. On sait que le président va s'exprimer ce soir à la télévision sur les médias. Donc, apparemment, comme tu l'as annoncé, ce sera certainement un nouveau tour de vis Alors, on sait que déjà des pays ont reconfiné. On rappelle Israël, il y a l'Australie.
Oui.
Donc, parce qu'ils étaient dans une situation d'urgence. La France, apparemment, avec les chiffres qui sont donnés, je ne sais pas s'ils sont fiables, mais apparemment, c'est des chiffres qui doivent être fiables.
On parlait hier de 500 voilà. morts, en effet, notamment.
Oui. Voilà.
Bizarrement, ça a doublé. Ça a doublé en quelques heures.
Voilà,
c'est
alors,
assez,
bizarrement, mais
tu as l'air d'être dubitatif, bizarrement. Mais en tout cas, on peut se poser la question.
Est-ce que c'est pour nous mettre la pression, c'est ce que tu veux dire? Peut-être pour nous faire accepter des choses qu'on n'accepte pas.
Possiblement.
Voilà. Donc c'était l'avis d'Elesper qui nous dit que peut-être si on veut nous mettre la pression pour accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal. En tout cas, ça c'est sûr, selon les chiffres qui sont annoncés, c'est surtout le fait aussi que les hôpitaux sont surchargés. Le gros problème, c'est que c'est le problème de l'hôpital. Hein. On en parlera peut-être avec.
C'est le problème central.
On en parlera peut-être avec nos invités. C'est justement qu'au niveau des hôpitaux, on est toujours dans la même situation pratiquement qu'en mars. C'est-à-dire que finalement, on n'y
est pas
de
encore lits. Quand même, Christian.
Non, mais je veux dire, au niveau du potentiel d'accueil des
patients. Ah oui,
des patients,
et des problèmes de lits en réanimation.
Voilà,
c'est
là le gros problème. Parce que s'il y avait assez de lits ou s'il y avait assez de personnel pour soigner, on ne serait peut-être pas obligé d'en arriver là. Et le problème, c'est que pratiquement rien n'a changé ou rien n'a été fait à ce niveau-là pendant cette période où on aurait pu se préparer justement à cette deuxième vague qu'on savait certaine pratiquement.
Alors juste avant de donner la parole à Guillaume, on rappelle que la France a battu un nouveau record selon les chiffres en tout cas qu'on nous transmet, à savoir 50 000 cas positifs confirmés en un jour. Le nombre de patients en réanimation continue à grimper, donc forcément ça augmente la pression sur les hôpitaux et il faut quand même le dire aussi.
Et sur la population aussi.
Sur la population également et puis sur les soignants qui font un boulot, on le rappelle, remarquable depuis des années, mais a fortiori depuis le mois de mars. On nous avait dit qu'il y allait avoir cette potentielle deuxième vague, donc a priori, on ne doit pas être surpris par la brutalité de la deuxième vague, sauf que on peut se dire que dans quelques temps, on aurait 100 000 cas par jour. Guillaume, ton avis là-dessus en quelques petites secondes, s'il te plaît.
Comme tu le dis, on ne doit pas être surpris, mais est-ce qu'au final, les choses ont été faites pour contre-attaquer cette deuxième vague? Je ne pense pas. Et encore une fois, si on fait un confinement, c'est bien à court terme, il y aura peut-être des effets positifs, mais au final, est-ce que ce n'est pas mieux reculer pour au final sauter dans le vide, comme on le fait actuellement, suite au premier confinement. C'est très bien à court terme, mais après, si ça ne suit pas, notamment sur les liens en réanimation, etc., ça va sûrement servir à rien.
Non, mais c'est important ce que tu dis. Alors, c'est un avis pessimiste, mais peut-être extrêmement réaliste et lucide de ta part. C'est qu'en effet, on est plutôt craintif et interrogatif à cet égard. C'est qu'on se dit, alors pourquoi reconfiner, mais au final, ce n'est pas un vrai reconfinement. On nous dit désormais que ça sera plus, le couvre-feu ne sera pas 21h. À confirmer ce soir, hein, c'est les éléments qu'on a nous en interne avec les différents médias journalistes. A priori, ça serait 19h. Les écoles vont rester ouvertes, sinon les parents, évidemment, vont être paralysés pour aller travailler, donc ça sera un vrai problème. Par contre, on nous confirme quasiment de manière certaine que les collèges, les lycées et les universités, notamment, on est quasiment sûr que les universités vont fermer, couvre-feu à 19h, et évidemment, ben, une économie qui va en prendre un coup. On aura l'occasion d'en parler par la suite, évidemment, messieurs. 8h08 sur les ondes de Galère, il nous reste 5 minutes pour la revue de presse. Un mot, Christian, sur Madame Rubirola, nouvelle, vous le savez, maire de Marseille, et Benoît Payan, qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques petites années sur les ondes de Galère, qui dit « Oui, je reste, j'assume, mais on travaille en binôme. La maire de Marseille et son premier adjoint répondent aux rumeurs. Madame Rubirola reste aux commandes de la ville. Les deux affirment fonctionner en symbiose. » Et appel à l'union des gauches. On sait aussi qu'on a un vrai problème entre la métropole, Manuel Valls, une sorte de rivalité qui est quand même un rôle prépondérant, et de l'autre côté, Michel Rubirola, Christian.
Oui, alors on rappelle que le Premier ministre Jean Castex est venu samedi à Marseille. Du coup, ça a été l'occasion pour Mme Rubirola de préciser que finalement, selon les... Enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à son absence. Alors c'est une absence apparemment qui est due à quelque chose de médical. Hein, voilà. Donc je crois que c'est une intervention. Voilà. Donc on a dit que finalement, bon, elle n'arrivait pas à assumer. Peut-être elle s'éloignait ou peut-être qu'elle voulait laisser sa place. Donc il y avait toutes sortes de rumeurs qui tournaient. Elle a mis les points sur les i, elle a donc dit que finalement elle était là et qu'elle allait certainement travailler, comme tu l'as dit, avec M. Payan. Donc c'est une sorte de binôme, c'est très bien de travailler en collégialité, de façon en consultatif en quelque sorte, puisque finalement elle se dit « bon, je vais aussi faire participer ceux qui sont à côté de moi à la gestion de la ville ». C'est une autre vision de la gestion de la ville qui était apparemment... avant dirigé par un seul homme à la tête de la ville, donc c'était un peu le patron, et là, elle donne une autre dimension, une façon de se concerter avec les autres, avec, certainement avec les citoyens, mais donc elle dit « je suis là, et bien là », et c'est bien de le dire et de le faire savoir.
Disons qu'elle laisse un peu plus place à la décision collective, alors qu'à une certaine époque, on va dire que celui qui avait la municipalité à Marseille était le seul...
C'était le boss, en quelque sorte.
C'était vraiment le boss, et depuis des années, comme on le connaît.
C'est une autre façon de gouverner, c'est très bien, c'est ce qu'apprécient les citoyens. Je crois qu'il faut gouverner comme ça, c'est-à-dire demander l'avis de chacun et avoir une réponse collective et une vision collective sur ce qu'on veut faire.
Oui, c'est ça. Ouais.
On revient peut-être à l'épidémie, on fait un petit tour d'Europe... et on va aller sur l'Italie. Et l'Italie, apparemment, ça ne se passe pas si bien que ça, parce que finalement, il y a beaucoup les jeunes, en principe, il y a beaucoup de monde, on en a marre de ce reconfinement, et il y a eu, en quelque sorte, des révoltes urbaines, en quelque sorte.
Oui, des manifestations, on peut
le dire. Guillaume, un petit mot là-dessus, alors.
Ça peut se comprendre. En fait, les gens peuvent tout simplement en avoir marre d'être privés de leur liberté. Et encore une fois, quand ils voient que certaines mesures sont prises, mais qu'à côté... il n'y a pas de mesures concrètes, en fait, au final, il n'y a pas d'avancée pour les hôpitaux, pour le service médical, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils ne comprennent pas pourquoi eux doivent être privés et ne rien faire à côté, c'est clair.
Voilà, donc c'est des incidents qui sont passés à Milan et à Turin, il y a eu des exactions, des jets de pierre, des poubelles brûlées, des voitures incendiées, donc... C'est une manifestation de mécontentement par rapport à ce confinement, à ces mesures vues comme des mesures de répression, en quelque sorte. Hein, c'est ça, c'est vécu un peu par la population dans ce sens-là, Guillaume.
Surtout par les jeunes, c'est sûr, parce qu'on a vraiment l'impression d'être laissé un petit peu dépourvu. Après, bien évidemment, on n'est pas les seuls dans ce cas, mais c'est toujours compliqué d'être, laissé comme coupable, ou en tout cas, on essaye de nous faire culpabiliser sur la situation sanitaire, alors qu'au final, c'est pas forcément non plus que de notre cas. On essaye souvent de dire que c'est à cause des jeunes, parce qu'ils font la fête, parce qu'ils se rassemblent, etc. Mais au final, je pense tout simplement que des mesures concrètes doivent être prises et il faut pas culpabiliser les jeunes.
Exactement. Dans les mesures concrètes, c'est vrai que la mesure de prévention, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai entendu un peu sur l'Allemagne, ils se préparent déjà à la venue du vaccin et ils sont déjà en train de mettre toute une infrastructure pour pouvoir vacciner le maximum de monde, pour permettre de produire le vaccin. Donc, ils sont capables d'anticiper. C'est ce qui fait finalement la réussite de l'Allemagne par rapport à la pandémie et dans beaucoup d'autres domaines. C'est cette capacité d'anticipation et apparemment, ça manque dans beaucoup de pays, dans la France, malheureusement, et d'autres pays, comme on le voit.
Ah, c'est ça, on essaye juste de limiter la casse et pas forcément essayer de voir sur l'avenir, tout simplement. C'est clairement le cas en ce moment.
On quitte l'Europe, on va aller sur le continent africain. Sur le continent africain, parce qu'on parle de la pandémie et du Covid-19, mais il y a aussi la problématique du climat, de la pollution, et tout ça, ça continue malgré, même si c'est masqué par la pandémie. Et ça, c'est encore une autre pandémie qui nous pend au nez et qui va nous tomber dessus, parce qu'en finalement, pour le moment, on bouge pas trop. Et on voit, par exemple, que l'Afrique est en train de devenir la poubelle de l'Europe, par exemple, par rapport aux véhicules, parce que finalement, on a décidé, pratiquement la majorité des pays occidentaux ont décidé de mettre tout le rebut de leurs vieilles voitures qui sont archi-polluantes sur le continent africain. Et ça, c'est un drame pour l'Afrique, parce que finalement, souvent, ils n'ont pas les moyens de refuser cela parce qu'ils sont dans une situation de précarité ou alors de pression économique. On en reparlera peut-être avec les économistes. Et finalement, on voit arriver sur le sol africain des tas de déchets. Donc, il n'y a pas que les voitures, d'ailleurs. Il y a toutes sortes de déchets qui sont envoyés en Afrique pour être soi-disant recyclés, mais qui polluent l'Afrique. Et ça, finalement, c'est vraiment un éclairage qu'on ne connaît pas. On en parle très peu, mais finalement, c'est un sujet très, très préoccupant parce qu'en plus, on est en train de polluer sur nos régions, on est en train de polluer d'autres régions du monde avec nos propres bêtises, parce que finalement, toutes ces voitures qui sont polluantes, on devrait les recycler ici, mais comme on ne veut pas faire cet effort-là, on va les envoyer en quelque sorte à la décharge ailleurs. Petit mot là-dessus.
Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Comme beaucoup de pays occidentaux, l'Afrique est considérée comme, par eux, malheureusement, et vraiment, ce n'est pas bien, comme une déchetterie, comme un laboratoire. Je pense notamment à certains laboratoires qui voulaient tester certains virus, notamment
Eh
pour
oui,
le
on en
Covid,
avait parlé, c'est juste.
voilà, dans le continent
Ça avait fait un
africain,
scandale d'ailleurs, cette histoire-là.
comme si ça n'allait pas provoquer d'effets secondaires sur eux, etc. Voilà, c'est assez fou.
Ça montre bien qu'on a une vision des autres qui est un peu biaisée, comme on peut dire.
C'est le
Voilà,
cas.
si on a peut-être encore le temps de dire encore une petite brève.
Rapidement, quelques petites
Rapidement.
secondes, Christian, oui, s'il te
Allez,
plaît.
bon, une bonne nouvelle,
Sûr.
parce qu'on a dit des
Ah, il
choses qui n'étaient
faudrait.
pas terribles. Voilà, le monde, il y a eu ratification par 50 pays sur le traité interdisant les armes nucléaires qui va entrer en vigueur prochainement. Alors on dit que c'est purement symbolique, hein, parce que les pays qui ont signé
Oui.
ce traité n'en possèdent pas la bombe atomique, évidemment, et tous ceux qui possèdent la bombe atomique ne veulent pas le signer. Mais en tout cas, c'est une avancée, on tient à le souligner, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'humanité. Ça peut pousser justement les autres pays à ratifier par la force des choses ce traité.
Un petit peu de
Alors,
positif. Voilà.
exactement, restons positifs. On donne assez de nouvelles,
De mauvaises nouvelles, c'est sûr.
de mauvaises nouvelles sur les ondes, et pas que chez nous, mais évidemment, ça fait partie de la triste réalité de la société. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les donner, évidemment. Voilà, c'est pas bien grave, regardez, hop, vous pouvez quand même le. Transparence totale. On est donc en direct sur les ondes de Galère. On a 25 minutes pour parler de Georges Ibrahim Abdallah, ce communiste enfermé depuis 36 ans. Et pour le représenter, qui mieux que notamment Suzanne Lemanceau, qui est membre fondateur. Je vais vous expliquer un petit peu, voilà, je vais la présenter parce que c'est important. Membre fondateur du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Elle est accompagnée aujourd'hui de Thierry, qui est le responsable du collectif Palestine sur le sud, enfin ouest étant de Ber Martigues, qu'on avait déjà reçu sur les zones de galère et qu'on est toujours ravis d'accueillir, avec toujours des luttes et des combats nobles. Donc merci à Thierry et Suzanne. Bonjour à vous, bienvenue sur les zones de Radio Galère.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. On va donc faire un éclairage avec vous, Christian, Guillaume et moi-même, et surtout c'est vous qui allez nous parler de Georges Ibrahim Abdallah. Pour ceux qui l'ignorent, je vous invite vraiment à rester à l'écoute et on va expliquer un petit peu le récit de sa vie et notamment, on l'espère,
De ses combats aussi.
de ses combats, de ses luttes et surtout, on l'évoquait en off tout à l'heure avec Thierry, du monde qui l'a soutenu depuis tant d'années. Parce qu'évidemment, peut-être que sans cette solidarité, ce soutien-là, ça aurait été très difficile pour lui, mais il a réussi à faire passer pas mal de messages emprisonnés. On va vous parler un petit peu de ça. Thierry Hameau, vous êtes responsable du collectif Palestine Marching. Vous défendez, vous apportez votre soutien, notamment à cette cause-là. Pourquoi ce soutien? Ça paraît
Parce
légitime.
que c'est un militant de la cause palestinienne, tout
Tout à fait,
simplement.
tout à fait.
Voilà, le collectif.
Georges Ibrahim Abdallah. Voilà,
le collectif Solidarité Palestine Ouest Étang de Berne, qui intervient donc sur Martigues et Port-de-Bouc, Istres, etc. intervient sur différents sujets qui concernent la Palestine, la lutte du peuple palestinien. Et donc, c'était tout à fait normal qu'on intervienne également sur le dossier Georges Ibrahim Abdallah.
Un dossier que vous avez pu en tout cas rencontrer, j'imagine que c'est un dossier qui revient souvent un petit peu dans les discussions et notamment dans les sympathisants du collectif de la Palestine. Je suppose que c'est un dossier qui parle en tout cas.
Voilà, c'est un dossier qui parle. En plus, on a la chance d'être sur Martigues, dans la 13e circonscription, d'avoir un député, Pierre Dharréville,
Tout à fait, qu'on salue.
Qui est sensibilisé à la question et qui est intervenu plusieurs fois auprès
Oui.
du gouvernement sur le cas de Georges Ibrahim Abdallah.
Sans succès, malheureusement.
Sans succès, voilà, mais qui va, je pense, continuer.
On fait un petit rappel historique alors sur
Tout à
Georges
fait.
Ibrahim Abdallah, parce que
avec
pour les
Suzanne
auditeurs.
Lemanceau, membre fondateur du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Un rappel un petit peu de l'historique de ce personnage symbolique, évidemment.
Oui, symbolique, un symbole de l'anti-impérialisme, hein, puisque Georges s'est engagé très jeune dans des mouvements progressistes libanais. C'est un communiste libanais, un communiste révolutionnaire. Il s'est engagé aussi très tôt auprès des Palestiniens dans des mouvements de libération, puis au FPLP. Et lorsque son pays a été envahi par les troupes israéliennes, il a cofondé avec d'autres les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, qui ont fait des actes de résistance. Nous appelons ça comme ça parce que parce que ce sont des actes de résistance qu'ils ont portés également en Europe, puisque les États-Unis comme la France étaient complices, on va dire, d'Israël dans cette invasion de son pays.
Ouais. C'est important ce que vous dites, c'est que, est-ce qu'on peut rappeler, alors je viens d'avoir un appel, on m'a dit, on en parle très peu, donc il m'a dit big up à Radio Galère d'en parler, c'est très bien, mais on n'a pas tous les éléments. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi il est emprisonné ? Vous avez évoqué les actes de résistance, évidemment, qui lui ont malheureusement, j'allais dire, coûté la vie. Non, heureusement, il est toujours vivant. En tout cas, sa vie familiale, sa vie de citoyen, elle a été broyée. Est-ce qu'on peut rappeler les éléments qui ont malheureusement déclenché cet emprisonnement et qui est évidemment injustifié et illégitime ?
Alors en 1982, il y a eu deux exécutions d'un colonel états-unien et d'un membre de l'ambassade d'Israël. Et ces deux exécutions ont été revendiquées par les FARL. Et donc Georges, qui était en France à cette époque, a été arrêté à Lyon en 1984. Et c'était aussi une période où en France il y avait beaucoup d'attentats et les gens du gouvernement n'avaient pas de coupables sous la main, et là il se trouve que...
Il fallait marquer les esprits en tout cas.
Il fallait marquer les esprits, si bien qu'il y a cette confusion qui existe encore actuellement où on pense que Georges Abdallah est responsable de tous ces attentats.
Voilà. Et c'est important
non,
de faire la distinction.
Non, pas du tout.
Et le distinguo sur ça.
Il a toujours nié, c'est ça.
Il a toujours dit qu'il engageait une responsabilité dans ces deux exécutions, mais pas du tout dans les attentats.
Dans les attentats. Donc on rappelle aussi qu'il est libérable depuis
1999.
Depuis 1999, et que chaque fois que cette question revient à la surface, on précipite d'enterrer le dossier. Alors, pourquoi on enterre chaque fois le dossier ? Parce que finalement, il devrait être libéré. Ça fait, on en dit, il va bientôt arriver, je crois que c'est le 24 octobre, dans sa 37e année d'emprisonnement. Donc, comme on rappelle, il est libérable depuis 1999, c'est très très loin, et il est toujours en prison. Alors, est-ce qu'on peut en expliquer pourquoi il y a ce maintien en prison sous les différents gouvernements français, sous les différentes présidences aussi, on le rappelle, que ce soit de gauche ou de droite, d'ailleurs.
Ben, tout à fait.
Alors, dites-nous un petit historique aussi sur ce.
Et alors, ben justement, en 2003, par exemple, sa libération a été prononcée. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Perben, est intervenu, lui, personnellement, pour qu'il ne soit pas libéré. En 2013, rebelote, le tribunal prononce sa libération. Et là... cette libération était conditionnée par la signature d'un décret d'expulsion, d'un arrêt d'expulsion, qui n'a jamais été signé par M. Valls de l'époque. Et donc, à chaque fois, on s'aperçoit, preuve à l'appui, que les États-Unis sont intervenus, parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont partie civile dans ce procès. C'est très rare qu'un État ait partie civile dans un procès, donc représenté par M. Cashman.
Mais c'est extrêmement rare, c'est important de le rappeler, que États-Unis se porte partie civile, donc forcément ça met un poids
Une pression énorme, pression a toujours existé à chaque fois qu'une libération a été prononcée. Donc jusqu'à présent, Georges a posé au moins 8 ou 10 demandes de libération. Et là, ça va, il a compris. Il s'arrête là. Et il ne demandera une libération que quand il aura en main un arrêté d'expulsion.
D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez déjà rencontré, c'est ça, durant son emprisonnement. D'ailleurs, il est toujours en prison. Comment vous l'avez vu ? Est-ce qu'il se sent bien ? Quelle est la situation dans laquelle il est actuellement ?
Moi, je le vois depuis 2008. Donc,
vous allez le revoir, je crois, dans quelques jours également. Hein.
Pardon.
Vous allez le revoir dans quelques jours, normalement.
Je l'ai vu après la manifestation.
Oui, voilà, dimanche dernier.
Je l'ai vu dimanche, la dernière. Et c'est quelqu'un de très fort, très, très courageux, très déterminé. Et c'est vraiment un combattant. et il a su résister à l'enfermement, il a su résister à toutes les humiliations que peuvent subir des prisonniers, et surtout à résister à tous ces échecs de demande de libération conditionnelle qui ne lui ont pas été accordés. Il est très fort, il se nourrit de journaux, de livres, il lit énormément, des livres à tendance marxiste, bien évidemment, et il est très courageux et très fort, il tient.
Quelles sont les initiatives et les actions que vous pouvez faire actuellement ou peut-être dans le futur pour essayer éventuellement de faire cette libération et donc ce papier d'expulsion vers le Liban? Est-ce qu'il y a encore des manœuvres, des possibilités de manœuvre de votre part?
Là, récemment, on a
Est-ce qu'il y a des pays aussi qui jouent le jeu, qui seraient susceptibles de pouvoir l'aider? Voilà, c'est la deuxième question. Je vous laisse répondre à la première.
Oui. Récemment, on a fait toute une campagne de courriers qu'on a adressé au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, le Président, aussi bien en France qu'au Liban, et pour demander cet arrêt d'expulsion. À chaque fois, les rares fois où on a eu une réponse, c'était l'exécutif ne peut pas
s'immiscer,
oui, dans les décisions de justice. Soi-disant, il y a une séparation des pouvoirs. Ben, on l'a bien vu avec Perben et Valls.
Qui avait appuyé, justement, malheureusement, à son encontre.
On n'y croit pas du tout. Donc, il faut continuer cette pression. Nous, on a déjà, depuis des années, fait des réunions, des rassemblements. On en est au 10e rassemblement devant la prison. On a déjà fait des manifestations pour lui. On a fait une année, on a même envahi le consulat du Liban à Paris. Et d'ailleurs, le consul, de même que l'ambassadeur, sont tout à fait partie prenante pour accueillir au Liban Georges Abdallah. Et pour l'instant, rien n'y fait. Donc je pense qu'il faut forcer... il faut qu'un rapport de force réel s'instaure et par tous les moyens.
Et au niveau politique, des partis politiques au niveau du gouvernement, au niveau de la France, est-ce qu'il y a des mouvements, des partis que vous citez, certainement le Parti communiste, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres partis qui soutiennent aussi cette action? Parce qu'il y a de la sympathie, du moins.
On va dire légèrement à France Insoumise.
Qu'on va recevoir bientôt la France Insoumise.
On les reçoit tout à l'heure, en effet, à 9h30.
D'accord. Donc vous pourrez leur poser la question directement.
La question.
Mais je sais, il y a des militants de France Insoumise qui sont engagés dans cette solidarité.
Monsieur Mélenchon, par exemple, qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet? S'il dit quelque chose, d'ailleurs.
Je maintiens qu'il y a certains militants de France Insoumise. Monsieur Mélenchon doit réfléchir encore, je pense.
Il réfléchit encore.
Il a d'autres chats à fouetter. Le problème avec Georges Abdallah, c'est qu'à chaque fois, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment de le libérer parce qu'il n'y a pas de gouvernement au Liban, parce qu'il y a des attentats en France, parce que voilà, c'est jamais le moment, comme par hasard.
Et justement, comment vous pouvez expliquer ce silence et ce traitement médiatique fait par rapport à cette affaire?
Mais Georges Abdallah est engagé dans un combat anti-impérialiste. Comme on sait que la France est impérialiste, c'est sûr qu'on doit lui en vouloir aussi dans cet engagement. Il est engagé aussi à temps complet sur la Palestine.
Oui.
Quand on connaît les complicités des gouvernements français, de gauche comme de droite, avec Israël, c'est sûr que ils ne tiennent pas à ce que Georges soit dehors, c'est clair.
Justement, on évoque la Palestine, évidemment Christian pouvait évidemment réagir par rapport à Thierry. La Palestine évidemment est toujours au cœur des débats, ça pose évidemment toujours des vrais problèmes, on n'arrive jamais à soutenir et à ce qu'on puisse en tout cas faire ce distinguo. Comment vous percevez ça, vous, Thierry, et comment la communauté palestinienne aussi voit la vision qu'elle a par rapport à tout ça?
Moi, je crois que, je crois, comme le disait Suzanne, que le gouvernement français, il est très, très lié avec, avec l'État d'Israël. Et donc, les informations sur la situation réelle en Palestine ont beaucoup de mal à sortir. Quoi.
Une sorte de puissance financière, puissance politique qui prédomine.
Oui, voilà. Puissance financière et politique. Et donc, nous, notre travail, si vous voulez, c'est de faire connaître la situation à travers un certain nombre d'événements. C'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait venir une équipe de footballeurs amputés de Gaza jouer contre l'équipe de France de footballeurs amputés.
C'est juste, oui.
De manière à mettre l'accent sur la situation à Gaza. Sur le fait qu'il y a des milliers de jeunes qui sont amputés, pourquoi, etc. Quoi.
Justement, ouais. Par rapport à Gaza, on sait que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Il y a une concentration de personnes extraordinaires qu'on peut-être il n'y a pas l'équivalent sur la planète. Par rapport à la pandémie du Covid-19, comment ça se passe? Alors, comment peuvent régler cette question aussi bien les autorités palestiniennes que les autorités de Gaza? Est-ce que vous avez des échos là-dessus?
Enfin, ce qu'on sait, c'est que pendant très longtemps, il y a eu très peu de cas de coronavirus à Gaza. Maintenant, il y en a depuis un certain temps. Et donc, il y a confinement. La situation est très compliquée. Quoi. Voilà, il y a pas mal de cas maintenant de...
On sait qu'Israël s'est mis à reconfiner, par exemple. Il y a oui. 3 semaines de reconfinement.
Oui, mais en Cisjordanie et à Gaza, il y a également un confinement strict. Donc, voilà. Alors, pour Gaza, en plus, ça se rajoute, si vous voulez, à la situation catastrophique du point de vue économique,
et infrastructure sanitaire, évidemment. Etc. Voilà.
Bon, on sait aussi, hein, parce qu'il faut peut-être aussi le dire, que... pendant des mois, les Palestiniens ont monté des structures de santé provisoires qui ont, pour une bonne partie, été détruites par les Israéliens qui considéraient que c'était des constructions illégales. Puisqu'il faut, ouais. il faut des autorisations pour tout, et donc notamment pour faire un hôpital de campagne. Quoi. Voilà. Donc il y a eu énormément de problèmes de ce type-là. Moi, je voudrais rajouter aussi que par rapport à Georges Ibrahim Abdallah, dans la construction d'un rapport de force... Hein, pour demander sa libération. Dans la campagne qu'on est en train de mener, il y a aussi le rôle important, je pense, d'un film qui va sortir, qui est en train de sortir, qui s'appelle Fedaïn.
Justement, on y vient, il nous reste 7 à 8 minutes et on va y venir. La transition est toute faite avec vous, Thierry.
Qui raconte son combat, sa vie, son combat depuis, le massacre des camps de Sabra et Shatila au Liban, son engagement, etc. Donc ce film qui sort ces jours-ci, il est prévu qu'il passe dans la région... si les conditions
le permettent,
si les autorisations sont... Voilà.
L'allocution d'Emmanuel Macron ce soir sera décisive, en voilà. effet.
Disons que jusqu'à maintenant, il est prévu qu'il y ait une séance à Port-de-Bouc au cinéma de Méliès le 6 novembre à 18h et une séance à Marseille, à la Bourse du Travail, en collaboration avec l'Union départementale CGT, donc à la Bourse du Travail, boulevard Charles Nedelec, le samedi 14 novembre à 17h. Voilà. Et puis ce film, il a commencé à tourner.
Il va tourner dans la France, je
voilà,
suppose.
Voilà, il va tourner en France. Il a commencé, je pense, à tourner
à
dans
Tarbes.
Le sud-ouest. Voilà.
Il commence à Tarbes le 30.
Voilà, et donc il va continuer dans toute la France, effectivement.
Et il y a un film qui a été réalisé par qui exactement ?
Par des militants de Toulouse, c'est
oui,
ça
Oui, production Vacarme, en liaison avec le collectif Palestine Vaincra de Toulouse.
Est-ce qu'il est prévu peut-être aussi de le faire passer sur Internet, éventuellement, pour qu'il soit à la portée de tout le monde, en quelque sorte, aussi? Est-ce qu'il y a... C'est envisagé?
Ben, c'est un outil militant. Donc là, c'est la présentation du film avec ceux qui y ont travaillé pendant 2 ans. Et après, évidemment, ce sera un outil...
Il pourra être accessible à tout le monde sur Internet aussi. Donc ça, c'est ce qui doit se passer si tout va bien. C'est les prochaines, en quelque sorte, actions par rapport à... pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Maintenant, est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour il sortira de prison ? On sait, on a vu l'histoire de Mandela, par exemple, qui a mis des années avant qu'il sortir. C'est un bel exemple. Alors, est-ce que vous voyez une sortie de ce genre-là pour Georges Ibrahim Abdallah ? C'est pour donner une note d'espoir, en quelque sorte.
Bien sûr, si on continue et on continuera jusqu'à sa libération, bien sûr qu'on est guidé par cet espoir-là. Et voilà, à partir du moment où on a compris que ce n'est pas un dossier juridique, c'est un dossier politique, on va s'y employer avec des moyens militants. Je voulais rajouter qu'il va sortir aussi l'an prochain un livre sur lui qui est écrit par Saïd Bouhamama et qui est préfacé par Pierre Stamboul de l'Union juive pour la paix et post-facé par Jean-Marc Rouillant, un ex-prisonnier. Et va sortir également un autre film fait par Pierre Carle, qui s'est déjà illustré dans quelques films précédents, dans le courant de l'année prochaine, qui c'est une autre orientation, une autre vision du combat de Georges.
Et c'est important de le rappeler, évidemment. Il nous reste 3-4 minutes avec vous, on le rappelle, le collectif Palestine, Marty qui est représenté, et évidemment Suzanne Lemanceau, membre fondateur du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Désespoir, Christian, tu l'as évoqué, quant à une future sortie de prison, on l'espère évidemment, ça reste évidemment une situation qui est extrêmement compliquée sur le plan géopolitique. Quels sont les moyens d'action à venir, les possibilités que vous avez et qu'on peut avoir en tout cas pour soutenir davantage Georges Ibrahim Abdallah? Est-ce qu'un changement politique peut modifier la donne? Comment vous percevez ça?
Des changements politiques, on en a eu.
C'est pas évident.
On est d'accord, oui.
On en a eu et ça n'a rien changé. Et voilà, Georges dirait que tant qu'il y a un pouvoir bourgeois, et on ne fera pas sortir les communistes de prison. Oui, je le pense aussi. Mais bon, à nous, Georges pense toujours qu'il faut s'investir dans des luttes, qu'il faut une convergence de luttes, que c'est pas lui qui l'intéresse profondément, c'est le sens politique que l'on donne à nos engagements. Et je pense que ça sera très important pour sa libération également. Si nous nous engageons tous ensemble, surtout ensemble, et dans des luttes d'émancipation des peuples.
Voilà, on rappelle qu'il est libérable depuis 1999, c'est-à-dire que finalement il a purgé sa peine, hein, voilà.
Hein, c'est oui, ça. Donc, depuis 21 ans.
Voilà,
oui.
Donc il a purgé sa peine, donc il devrait être libre, et malheureusement il est maintenu en dehors de cette période, c'est presque de l'illégalité quand on doit. C'est-à-dire quand on a purgé sa peine, bon, c'est bien, on a payé, on doit être libéré, et là il y a des pressions pour le maintenir en prison, ce qui est vraiment contraire au droit. On peut aller dans ce sens, on est bien d'accord. Un petit mot sur la Palestine, on y revient. Vous avez invité l'année dernière, des joueurs de football handicapés. On rappelle handicapés, pourquoi ? Parce qu'ils ont été blessés intentionnellement par les soldats pour les handicapés. Hein. Il faut le rappeler, c'était intentionnel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, justement, de jumelage avec des villes palestiniennes pour faire venir ou des enfants ou des athlètes ou des intellectuels?
Il y a plein de choses qui étaient prévues pour l'année 2020 qui ont été annulées et qu'on espère pouvoir réaliser.
Dites-nous un petit aperçu, vous avez 2020, quelques minutes.
En 2021.
En espérant que ça se passe.
Allez. Alors, presque toutes les années, on fait venir un prof de français de l'Université des Bruns avec des enfants qui apprennent le français. Donc, dès que la situation le permettra, je pense qu'ils reviendront. On avait un projet de faire venir une troupe de jeunes danseurs, comédiens, danseurs de Gaza, qui, vraiment de qualité exceptionnelle, qui représente des scènes de la vie de Gaza. Et puis on avait un autre projet important qu'on espère bien pouvoir réaliser prochainement, qui était de faire un débat en ayant comme invité des organisations juives anti-sionistes, notamment israéliennes. Israélienne, française, etc.
Voilà. Ça,
de manière à démonter l'argument du gouvernement.
Il n'y a pas qu'une seule voix en Israël. Il y a de la contestation aussi par rapport à ce qui se passe.
Voilà, si vous attaquez à Israël, ça veut dire que vous êtes antisémite. Or là, on ne peut pas qualifier des organisations juives d'antisémites. Ce n'est pas possible. Donc c'était pour démonter cet argument-là. Ça n'a pas pu se faire cette année. On espère que ça se fera l'année prochaine. Voilà.
On peut notamment vous retrouver, Suzanne et Thierry, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour continuer cette lutte pour la liberté de Georges.
Et on a un blog que l'on trouve sur Libérons Georges, Samizdat. Et il y a des Facebook, notamment Free Georges Abdallah.
Est-ce qu'il y a des pétitions qui tournent en ligne?
Il y a des pétitions qui tournent,
certainement.
Oui. Et par exemple, dans le sud, à Tarbes, régulièrement, dès qu'ils arrivent à 1000 signatures, ils vont les porter à la préfecture. Ils ont fait ça déjà au moins 5 fois. Donc
il y a des choses que, si les auditeurs qui écoutent, ils peuvent aller aussi soutenir cette action pour libérer Georges Ibrahim Abdallah. Tout ça est possible. Bon, on a vu, il n'y a pas vraiment pour le moment de perspective avec cette pandémie ou juste qui bloque beaucoup d'actions, certainement. Mais en tout cas, il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se faire, puisqu'on a vu qu'il y a deux films qui vont tourner, justement, relatant un peu l'histoire, l'historique de son engagement. Et ça, c'est quand même une première, puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On peut espérer que les prochaines années vont être décisives pour éventuellement avoir une libération de ce prisonnier qui est là depuis 37 ans, on le rappelle, dans les geôles françaises.
Et alors, je voulais souligner quand même que là, pour le 10e rassemblement devant la prison de Lannemezan, nous étions 600, c'est-à-dire 200 de plus que l'an dernier, en plein Covid.
En plein Covid,
en plein Covid.
Ça.
Et moi, je pensais que, bon, ça allait être difficile. Et là, non, ce qui prouve que quand même, il y a eu un réel travail de solidarité cette année qui a impulsé, qui a eu ce résultat-là.
Mais comment vous expliquez justement cette prise de conscience plus importante cette année ?
Mais parce que je pense qu'on a fait beaucoup de travail cette année, beaucoup de boulot, de solidarité. Et puis, il y a une conscience politique qui...
Il y a un réveil de conscience politique, peut-être.
Je pense. Peut-être dû à la fragilité sociale actuelle. Et...
Voilà. Voilà, on rappelle aussi qu'il est je crois que c'est un prisonnier américain qui est... plus vu encore dans les geôles, je crois que c'est un militant des Black Panthers peut-être, je sais.
Alors
pas.
On va devoir conclure sur les ondes.
Voilà, il fait partie en tout cas de ceux qui sont le plus longtemps en geôle au niveau politique, pour des convictions politiques.
On va devoir conclure, on a dépassé 3 minutes, mais en tout cas il y avait matière à dépasser.
Pour
évidemment, on remercie
corps,
le collectif Palestine,
merci
représenté
beaucoup
par Thierry, on remercie évidemment merci. Suzanne Lemanceau, membre fondateur du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, on le rappelle, ce communiste infatigable qui est emprisonné depuis désormais 36 ans. On vous invite
bientôt
aussi
37.
Prochainement, si le contexte le permet, à aller voir ce film. Vous tapez, il y a des groupes Facebook, vous tapez Fedaïn, vous tapez le combat de Georges Abdallah, vous avez toutes les infos. C'est régional, ça se passera à Port-de-Bouc, à Tarbes, à Port-de-Bouc, à Marseille également. On l'espère en tout cas, si l'allocution du président de la République le permet, dès ce soir. Pause musicale, Christophe Maé, il est où le bonheur? J'espère que...
Sur Radio Galère.
Voilà, oui, qui lit sur les ondes de Radio Galère. Et puis, juste après, dossier avec les d'économistes. On va parler d'économie politique et de marxisme sur les ondes du 81.4. Merci Suzanne, merci Thierry. Au plaisir.
Merci.
Merci à vous.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Mais il est là, le bonheur. En tout cas, on l'espère. Radio Galère 88.4. On rappelle évidemment qu'on est en direct sur les ondes de Radio Galère. On vient de conclure un dossier sensible avec le dossier de Georges Ibrahim Abdallah. Un dossier évidemment qui occupe beaucoup d'espace, notamment ces derniers temps, pour une potentielle libération. Il est emprisonné depuis 36 ans. On conclut donc ce dossier et on ouvre un deuxième extrêmement sérieux aussi. On va parler d'économie ou de d'économie. On a le plaisir de recevoir ce matin Dany Brouet, qu'on connaît bien sur les ondes Radio Galère. Ça fait plusieurs fois qu'il vient nous voir. Alors c'est toujours espacé, hein. Parfois on ne l'a pas vu pendant quelques mois, voire quelques petites années, mais il est toujours là. Dany Brouet est coordinateur des rencontres d'économie. On va vous décrypter ce que représentent les rencontres d'économie. Il est accompagné de Fabrice Aubert, qui est économiste. Vous verrez, ils ont leur franc-parler, ils ont leur identité, leur griffe évidemment. Et ils sont avec nous pendant 40 minutes pour parler d'économie, et j'allais dire d'économie politique, en tout cas qu'est-ce que l'économie et pourquoi aujourd'hui nos invités ont choisi Radio Galère pour nous parler de cette très belle initiative. Bonjour Dany et bonjour évidemment bonjour. À Fabrice.
Bonjour tout le monde.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. Fabrice, deuxième passage sur les ondes de Radio Galère. On va parler donc avec vous d'économie. Dany Brouet jouait aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il va jouer un rôle parce que sa palette est très large hein, au niveau des compétences qu'il peut avoir. Mais aujourd'hui, il va jouer le rôle du journaliste qui interviewe donc Fabrice Aubert en tant qu'économiste et nous parler donc de la thématique de l'économie. Christian, évidemment, Guillaume et Anthony, on est toujours au micro. On se met un peu plus en retrait. On intervient derrière et auditeurs, auditrices, vous en avez l'habitude. Vous l'avez fait au cours de la première interview 04 91 08 28 10. Venez réagir à l'antenne, on passera vos propos après la petite interview. Voilà. Un petit mot, messieurs, vous nous faites un petit rappel de vos, j'allais dire, de vos portraits, mais en tout cas, de vos structures aujourd'hui, pour décrypter un petit peu et forcément éclairer nos auditeurs et auditrices de Radio Galère. Alors, on démarre par Dany.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis le co-donateur des rencontres d'économique à Aix-en-Provence.
Il est ému.
Donc, j'assure la coordination des rencontres d'économique à Aix-en-Provence, qui est donc une manifestation en riposte aux rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes à Aix-en-Provence.
C'est un petit peu le off, évidemment. Voilà, comme vous avez le festival d'Avignon, vous avez le off. Eh bien, alors, là, le off, c'est les rencontres économiques, en effet.
Voilà. Et donc, je laisse Fabrice se présenter.
Bonjour tout le monde. Écoutez, moi, c'est Fabrice Aubert. J'ai 62 ans, je suis économiste, j'ai donc une certaine expérience de ces questions. J'étais diplômé de l'université d'Aix-Marseille et mon seul objectif, c'est d'essayer de permettre aux citoyens de pouvoir se faire un avis. C'est-à-dire, j'essaierai en permanence de donner deux points de vue, ce qui ne se passe pas à la télé. Ou en règle générale, c'est le monologue du libéralisme avec le libéralisme.
Ce qu'on nous cache, Fabrice, c'est ça, ce qu'on nous cache parfois.
Hein. J'ai essayé de montrer la partie cachée de l'iceberg.
De l'iceberg. Et l'iceberg est grand. Extrêmement grand.
Oui, surtout de la partie cachée.
Exactement, exactement.
Donc on remercie Radio Galère de nous inviter et donc on va se revoir de façon régulière une fois par mois parce que...
Tous les derniers mercredis, Dany, c'est important de le rappeler.
Tous les derniers mercredis.
On l'a assez dit, mais on va continuer à le dire tous les mercredis, enfin un mercredi de chaque mois.
On a signé un contrat avec...
Un contrat mirobolant.
Assez juteux.
Extrêmement juteux, on aura l'occasion d'en parler en effet.
Ils savent négocier, on peut le dire.
Voilà, ouais, c'est ça. Ils seront avec nous tous les derniers mercredis de chaque mois, et c'est un vrai plaisir, on abordera différentes thématiques liées à l'économie politique avec différents acteurs. Aujourd'hui, c'est Fabrice Aubert, demain, ça sera une autre personne, et puis Fabrice reviendra également pour une autre émission. Dany, la parole vous est donnée.
Donc le cadre, c'est par rapport à ce qui s'est passé cet été, puisque à la fois les rencontres économiques et les rencontres d'économiques n'ont pas pu avoir lieu pour raison de Covid, mais le Cercle des économistes a tenté de privatiser Radio France pendant 3 jours pour faire sur les antennes de Radio France.
Et là, c'était juteux, évidemment, Denis, par contre. Financièrement parlant, ils avaient mis les moyens.
Hein. Ah oui, tout à fait. Donc nous, on a réagi par rapport à ça. Donc on a contacté tous les médias indépendants pour dire écoutez, il faut venir au secours de la PDGR de Radio France pour assurer le pluralisme en matière d'économie, puisqu'on savait que pendant 3 jours, sur toutes les radios de Radio France, on n'allait parler que d'une économie, que d'économistes ultralibéraux. Et donc notre idée, c'était de dire... de contacter tous les médias indépendants en disant « il faut venir au secours » et inviter des économistes hétérodoxes sur vos antennes, sur vos plateaux de télévision pour qu'on parle réellement d'économie.
C'est ce qu'on fait sur Radio Galère.
C'est ce qu'on a fait et ça a très bien marché.
Ça a très bien marché sur un plan national. Il y a eu donc un accueil extrêmement fort parce que beaucoup de gens étaient scandalisés qu'on puisse privatiser comme ça pendant 3 jours un service public. Et donc l'idée de Fabrice, comme ça avait très bien marché, c'est de dire on va prolonger cette action. Et donc aujourd'hui, on vient vous parler d'économie et on va poser la première base, c'est d'abord de nous faire réfléchir sur ce qu'est l'économie. Donc Fabrice, si tu peux répondre à cette question.
Qu'est-ce que l'économie ? Vaste sujet, vaste programme, comme dirait l'autre.
Alors voilà, il s'agit d'opposer en fait deux termes. Il y a d'un côté ceux qui parlent de science économique, d'économie, et puis de l'autre, économie politique. Et en fait, l'utilisation de ces deux mots, de ces deux concepts, sont différents et ne permettent pas, comment dirais-je, d'avoir une vision. L'économie n'est pas objective en tant que telle. En fait, l'économie, ça vient du grec oikomos, qui désigne étymologiquement l'administration de la maison. Au sens religieux ou psychologique, l'économie est la manière de diriger sa vie personnelle. On voit bien déjà immédiatement le sens religieux, c'est-à-dire « je veux diriger ma vie ». Au sens courant, l'économie rassemble les activités humaines tournées vers la production, l'échange, la distribution
et la consommation de biens et de services. Mais l'économie est aussi la discipline académique qui étudie ces activités matérielles. Et lorsqu'on parle de discipline académique, c'est à ce moment-là qu'est introduit le mot « science », et on parle de science économique.
Donc l'économie serait donc une science dure au même titre que la physique ou la chimie. Il y aurait donc en économie une vérité.
Voilà, c'est-à-dire la présentation du concept économie ou science économique suppose que ça soit une présentation scientifique qui porte une vérité de nature scientifique au même titre que la physique ou la chimie, et que de ce fait, il n'y aurait aucune contestation possible et du modèle construit et des résultats obtenus.
Écoute, tu peux traduire parce que ça veut dire quoi ce charabia?
Alors, c'est assez difficile puisque, en fait, comme ce sont les économistes purs et durs qui ont défini leur vocabulaire, il faut passer par leur vocabulaire pour au moins entendre et comprendre ce qu'ils veulent dire. Au sein de la discipline, on distingue deux branches qui se distinguent par leur objet d'étude et leur méthode. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie étudie les grands agrégats économiques, l'épargne, l'investissement, la consommation, la croissance économique, éventuellement le chômage. Hein. Et puis la microéconomie étudie le comportement des agents économiques. Les agents économiques, c'est nous. Hein. Nous sommes des agents économiques. Hein. Et la branche de l'économie qui est consacrée plus spécifiquement à l'étude quantitative des modèles économiques est l'économétrie, qui a pris une très grande place dans la discipline avec un usage important des méthodes statistiques et mathématiques. On estime en effet qu'en 2011, 80% des articles publiés dans les meilleures revues en économie contiennent au moins un test empirique avec des équations censées représenter les comportements de l'homo economicus, c'est-à-dire des agents économiques. Homo economicus, c'est l'agent économique, c'est-à-dire vous et moi.
Ouais, mais tu m'as souvent décrit cette économie comme une économie de tube à essai. Tu peux préciser ta pensée?
Eh bien, comme tout ceci doit être scientifique et mathématique, on va écrire le comportement de l'homo economicus à travers des équations de comportement, d'achat ou de vente. Il n'y a que ça qui compte. C'est notre comportement d'achat ou de vente qui va déterminer au niveau économique l'ensemble des équilibres et qui, de fait, par voie de conséquence, va déterminer l'équilibre de la société. C'est-à-dire, il n'y a pas de société en amont. C'est le comportement individuel des agents qui, recherchant leur objectif de maximisation de leur intérêt, pour ne pas dire profit, va déterminer un équilibre général qui devient le suppôt à ce qu'on appelle l'équilibre de la société.
Ouais, mais achat ou vente, qu'est-ce que c'est alors?
Eh bien, achat ou vente, c'est le comportement des agents. Et il y a un économiste qui s'appelle Adam Smith qui parle alors de main invisible, c'est-à-dire que l'ensemble des offres et des demandes des homo economicus independentus, indépendants, libres, comme on dit de l'économie libre, va être régulé par un espèce d'immense commissaire-priseur qui se trouve au-dessus et qui s'appelle la main invisible. Mais quand on dit main invisible, il faut bien comprendre à quelle notion ça renvoie. Si la main est invisible, on ne la voit pas. Donc on ne peut pas modifier les règles économiques, puisque c'est la main invisible qui les détermine. De plus, main invisible renvoie à la notion de Dieu. Il faut se rappeler dans quelle période est né le libéralisme. C'est juste au moment de la Révolution française. C'est-à-dire au moment où on décapite le roi parce qu'on est fatigué de lui faire confiance, les économistes libéraux substituent à Dieu la main invisible pour continuer un système dans lequel on se réfère à quelque chose qu'on ne peut jamais toucher.
Alors, lorsqu'on est comme toi du côté des incroyants, infidèles, pour parler d'économie, on utilise quel terme alors?
Voilà, alors l'opposé, c'est l'économie politique. Alors là, on ne renvoie plus à une main invisible. On ne renvoie plus à au total des agrégats des individus cherchant à optimiser leur consommation. L'économie politique renvoie tout simplement à la politique. La rationalité économique est d'abord et avant tout la conséquence des choix politiques qui sont faits en amont. Et dans ce cadre, il faut se rappeler que les premiers économistes étaient les conseillers des princes. D'où le rapport avec la politique. Machiavel était un économiste. Colbert était un économiste. Il a d'ailleurs développé dans notre pays toute une série d'interventions, dont les manufactures, qui étaient à vocation économique. L'économie politique peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité, mais la cité avec des citoyens qui décident, en dernier recours, des orientations politiques. L'expression d'économie politique est créée au début du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, et employée à l'origine, selon Charles Le Gide, pour décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et de services, et leur relation avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations, incluant évidemment le budget. Pour Léon Valras, qui est un autre économiste classique, l'économie politique se définit comme l'exposé de ce qui est et le programme de ce qui devrait être, c'est-à-dire une forme de planification des orientations politiques.
Mais alors, pourquoi avoir substitué économie à économie politique ?
Alors, cette question, Dany, est extrêmement dangereuse pour le système actuel. Parce qu'on passe d'un système qui renvoie une main invisible, inaccessible, qu'on ne peut pas modifier, sur laquelle on ne peut pas intervenir, à un système où c'est le politique qui devient prégnant. Mais si je dis le politique est prégnant, ça veut dire que les citoyens, dans leur agora collective, peuvent décider de modifications du système économique, des règles économiques, des objectifs économiques et des critères de gestion dans les entreprises. Est-ce qu'on favorise l'emploi ou est-ce qu'on favorise les profits ?
Et dans ce débat académique dont tu viens de nous retracer les pistes historiques, où te situes-tu ?
Alors moi, je suis dans une approche qui est de contestation de cette logique dominante. Et pour être le plus pédagogique possible, je compare souvent ce que j'appelle l'économie politique ou les économistes comme des peintres, des peintures bourgeoises affichées dans les salons. Prenez 5 peintres le même jour. Et vous leur demandez de dessiner le même arbre, du même endroit. À la fin de la journée, vous ramassez les peintures. Vous aurez 5 peintures différentes, 5 tableaux différents. Vous prenez 5 économistes différents. Vous les mettez devant un graphique, le même jour, avec les mêmes données, les mêmes informations, aux 5. Vous revenez au bout de 2 heures pour ramasser les copies, vous aurez 5 interprétations différentes. Ceci montre bien que l'économie n'est pas une science pure. Elle dépend du regard que l'on porte sur l'objet, comme les peintres pour l'arbre. Et je pense que cette présentation est infiniment pas objective, ça n'existe pas. Même des photos, on peut représenter des arbres avec des photos différentes. Mais c'est authentique. C'est-à-dire, on essaye de montrer les choses pour que les citoyens puissent se faire un avis.
Oui, au vu de ta présentation, difficile après de parler de sciences économiques, vu que sur un graphique, des interprétations différentes peuvent avoir lieu.
En effet, il n'y a pas d'économie neutre. Et là encore, il n'y a pas 36 000 positions. Globalement, il y en a 2, pas plus. Les promoteurs du marché libre et non faussé, qui se cachent